Bonjour à tout le monde. On a beaucoup de monde aujourd'hui ici. Ils ont dit qu'on aurait un beau jeune homme pour donner le sermon. Et j'ai regardé autour. Alors écoutez, vous allez avoir un vieillard à la place. C'est vraiment bon d'être avec vous aujourd'hui. Et j'apprécie que vous ayez autant de zèle. Et il y a de croissance dans l'Église. Et on a plus de monde maintenant. Dans la salle ici, c'est bien, c'est encourageant. Et ceux qui étaient partis à l'extérieur sont maintenant revenus. Et bien sûr, à mesure que les événements prophétiques se réalisent, les gens s'approchent de plus en plus, ils veulent comprendre. Quand la Pâque approche aussi, l'assistance augmente et c'est normal. C'est une bonne chose. Mais je vais vous dire quelque chose. Nous allons avoir seulement une autre assemblée ici dans la salle où nous sommes aujourd'hui. Alors, si vous avez des parents ou des amis qui ne sont pas ici aujourd'hui, avertissez-les que la semaine prochaine, ce sera la dernière réunion ici. Nous allons nous réunir ensuite dans notre salle nouvelle à 2 heures l'après-midi. Comme nous augmentons en nombre, nous ne voulons pas aller à l'encontre des règlements municipaux concernant le feu. Alors, même aujourd'hui, on doit diffuser le sermon que je donne sur écran dans une salle voisine parce qu'on a trop de monde dans l'Assemblée. Alors, on doit trouver une solution. Et comme on ne veut pas avoir deux assemblées le jour du sabbat, selon le désir de la plupart d'entre vous, dans cette salle nouvelle, nous allons pouvoir avoir une seule assemblée et tous ensemble. L'œuvre de Dieu avance, vous savez. Nous sommes très reconnaissants pour les nouvelles stations de télévision que Dieu nous donne. Et la station Word produit de bons fruits en termes de réponses. La semaine dernière, nous avons eu plus de 5000 réponses à l'émission de M. Smith. Et avant ça, ça a été la même chose la semaine précédente. Alors, nous avançons. Nous augmentons le nombre de stations que nous utilisons. Et à mesure que les événements prophétiques progressent, nous allons probablement avoir plus de réponses à nos émissions de télévision. Au temps de M. Armstrong, ils avaient beaucoup plus de réponses, bien sûr. Nous avions beaucoup plus de réponses à l'époque. Mais écoutez, à ce moment-là, nous étions sur 157 stations commerciales au même moment. Et nous n'avons pas accès à autant de stations commerciales pour l'instant. Et nous allons voir ce que Dieu va faire avec ça, avec le petit nombre que nous sommes. Alors, écoutez, je paraphrase M. Churchill qui disait « Jamais dans l'histoire un si grand nombre ont été redevables à un si petit nombre pour tant de choses. » C'est vrai, nous sommes tout petits. Nous sommes un tout petit troupeau. Et même si nous sommes en croissance, nous sommes tout petits comparés aux églises de ce monde qui ont des millions d'adeptes et même 1 milliard d'adeptes comme l'Église catholique. Alors, nous sommes minuscules, pour ainsi dire. Nous sommes le petit troupeau de Dieu, mais Dieu nous donne de plus en plus de puissance et de capacité pour faire l'œuvre. On peut en être reconnaissant. Les événements prophétiques avancent, progressent, et ça va devenir enthousiasmant de plus en plus. Et bien sûr, il y aura des choses traumatisantes qui vont se passer. On doit s'attendre à ça. Certains ont mentionné aujourd'hui dans les annonces que ça a été une semaine difficile avec des défis. Nous allons avoir des défis à rencontrer. Nous allons passer par la période la plus difficile, la plus remplie de défis de toute l'histoire. Nous faisons partie de l'œuvre de Dieu. Écoutez, ça fait plus de 60 ans que je suis dans l'œuvre maintenant et je surveille les événements. Ça fait 61 ans maintenant. Et je peux vous dire, du fond du cœur, je peux vous confier ceci. J'ai nettement l'impression que nous sommes maintenant en train de commencer à entrer dans le dernier droit. Vous savez, dans la course d'un mille, j'ai déjà participé à ce genre de tournoi lorsque j'étais au collège. J'ai été champion d'ailleurs de la course de 1 000. C'était ma spécialisation. Je faisais de la boxe aussi, mais j'étais meilleur pour la course. Et dans la course d'un mille, il nous faut continuer, 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 ne jamais abandonner. Même si on devient très fatigué après 3 tours de piste, parfois les jambes nous tremblent même. Et on dit qu'on a de la difficulté à respirer. Mais après le troisième tour, il y a un coup de pistolet, comme au départ de la course. Ils ne font pas ça dans les autres courses, mais dans la course du 1000, ils tirent un coup de pistolet et ça vous donne cette poussée additionnelle d'adrénaline pour terminer la course, pour aller rapidement dans le dernier droit. Et moi, ça m'aidait. Et j'espère que vous tous, vous êtes enthousiasmés pour finir l'œuvre de Dieu. Vous savez, on voit des nouvelles à la télévision au cours des dernières semaines. Nous sommes maintenant dans la phase finale de l'œuvre de Dieu. Je ne veux pas dire qu'il reste seulement 2 ou 3 ans. Il nous reste peut-être 5 ou 10 ans pour terminer l'œuvre. Au moins 5 ans peut-être. Peut-être davantage. Nous ne le savons pas. Mais vous, les jeunes gens, vous pensez que 10 ans, c'est très long. Comme Jessica en avant ici. Alors, Jessica, quand on a 18 ans, on trouve que 10 ans, c'est long. Mais quand on a 80 ans ou 70 ans, on trouve que le temps passe beaucoup plus rapidement. Nous sommes dans le dernier droit maintenant et il nous faut le réaliser. Il nous faut être enthousiasmés de la bonne façon. Il y a des événements majeurs actuellement qui se passent partout sur la planète. Et je ne veux pas prendre tout le temps du sermon pour décrire tous les événements qui se passent actuellement, parce que je veux vous donner des éléments spirituels pour vous aider. Je vais vous en mentionner 2 ou 3 qui se passent actuellement. Ces événements-là, tragiques, ne se passent pas seulement dans les pays non israélites, mais ça atteint nos pays israélites. Dieu va punir nos nations. Nous ne sommes pas supérieurs en rien aux autres nations, absolument pas. Mais Dieu utilise des nations autres que les nations israélites pour nous punir. Pas parce qu'ils sont plus mauvais que nous sommes ou qu'ils sont insensés. Au contraire, certains sont très capables et très intelligents et ils vont transformer leurs capacités et leurs machines militaires pour en faire des machines terribles de destruction sur Israël. Je suis un peu allemand moi-même, mais je sais que les Allemands vont jouer un rôle majeur pour amener la chute d'Israël. Dieu a appelé Pharaon son serviteur, Nabuchodonosor son serviteur aussi. Il a appelé Cyrus son serviteur. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé ses différents leaders pour punir son peuple et pour accomplir son œuvre. C'était des gens charnels, mais Dieu les a utilisés. Et Dieu va utiliser plusieurs races différentes pour punir les descendants des peuples de langue anglaise. Parce que nous sommes plus mauvais? Non, nous sommes très mauvais, mais nous avons le droit d'aînesse. Nous avons reçu des bénédictions extraordinaires. Nous sommes ceux qui avons envoyé des missionnaires dans d'autres pays, qui avons envoyé des infirmières dans d'autres pays. Nous avons imprimé des millions de Bibles que nous avons distribuées, mais nous nous sommes détournés de Dieu et Dieu nous châtie maintenant et commence à le faire. Dans Hébreux 12, il est écrit que Dieu châtie chaque fils qu'il aime. Pas les fils qu'il haït. Dieu m'a châtié. Pourquoi? Parce qu'il m'aime. Pas parce qu'il me déteste. Mais Dieu fait la même chose avec chacun de ses fils qu'il aime. M. Ogwin a donné une très bonne sermonnette là-dessus en disant que si nous aimons les lois de Dieu, rien ne nous offense, comme c'est marqué dans Psaume 119, verset 165. J'ai été envoyé loin du collège à certaines époque, ce n'était pas ma faute, je n'étais pas en péché, je n'avais pas transgressé les lois de Dieu pour être envoyé ailleurs, il y avait quelque chose d'autre qui se passait et il y avait des gens qui agissaient mal et je savais et on voulait m'éloigner. Au collège également, à un certain moment donné, lorsque j'ai été vice-président, j'ai été envoyé du collège en plein milieu d'un semestre, en semi-exil à Glendora, en Californie. Et on ne voulait pas que j'assiste aux réunions de sabbat au quartier général, Je devais avoir un bureau, mais on ne m'a pas donné de bureau. Et mon épouse a parlé au leader à ce moment-là. Et elle a dit, vous ne voulez pas que mon mari assiste aux réunions? C'était bien le cas. J'ai assisté à zéro assemblée à ce moment-là. Il ne voulait pas que je sois là. Il y avait certains à la tête de l'Église à ce moment-là qui voulaient m'écarter. Je le savais. Certains m'en ont parlé après. Ça m'a comme encouragé de voir que c'était vraiment la bonne perception que j'avais. Parce qu'écoutez, je n'étais pas d'accord avec les changements qu'ils faisaient. Je n'allais pas marcher avec eux dans les changements erronés qu'ils voulaient faire. Même s'ils m'avaient envoyé à Tombouctou ou en Arctique, je ne voulais pas suivre le chemin qu'ils voulaient que nous suivions. Ces changements-là étaient des changements hérétiques et horribles. Il ne faut pas changer les voies de Dieu, absolument pas. Écoutez, lorsqu'il y a des changements qui arrivent, lorsqu'il y a des choses qui se passent, il ne faut pas se sentir offensé. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et rien ne les offense, comme j'ai mentionné dans Psaume 119. Bien sûr, quand ça m'est arrivé que j'ai été envoyé sans que j'en sois coupable ailleurs, comme ça, j'ai eu des moments où j'ai réagi moins bien. Ça arrive à tout le monde, mais je me suis corrigé après. Et il faut, avec l'aide de Dieu, prendre les choses de bonne façon et avoir la bonne attitude. Une inondation de proportions bibliques a frappé l'Australie il y a peu de temps. C'est ce que le premier ministre a mentionné. Et par après, ils ont été frappés par un cyclone ou un typhon, des vents tropicaux qui ont causé encore plus de dommages à l'Australie. Et M. Tanner, notre ministre là-bas, nous a bien expliqué dans un sermon que quand les gens se détournent de Dieu, Dieu les punit. Et l'Australie est un des pays qui fait la promotion la plus intense concernant l'homosexualité. Ils ont la plus grande parade gay au monde actuellement. Et Dieu n'honore pas ces gens-là. Dieu a en abomination ce qu'ils font et Dieu est en train de les amener à tomber. Alors, Dieu commence à intervenir sur Israël. Il y a des milliers de gens en Grande-Bretagne maintenant qui commencent à abandonner la religion protestante pour retourner à l'Église catholique. J'ai plusieurs coupures de presse que je pourrais vous lire. Mais écoutez, il y a des milliers maintenant d'Anglais qui abandonnent l'Église anglicane pour retourner à l'Église mère, l'Église catholique. Et il y a des douzaines d'évêques anglicans qui quittent et qui retournent à l'Église mère de Rome. Dieu l'a dit dans sa Bible que cette grande Église, au temps de la fin, allait prendre le contrôle. Ce n'est pas un accident. C'est en train de se passer sous nos yeux. Le renversement de la réforme protestante est en train de se produire sous nos yeux. Troisièmement, les États-Unis et certaines nations du Commonwealth sont dans une situation financière horrible actuellement. Nous avons écrit des articles là-dessus. Plusieurs de nos États des États-Unis et plusieurs de nos villes sont aux portes de la faillite. Ils sont endettés au-delà de ce qu'ils peuvent rembourser. Ils sont en train de mettre à pied des centaines et des centaines d'employés. Et plus tard, ce sera des milliers d'employés de l'État et des villes, des employés municipaux qui seront mis à pied. Des infirmières, des enseignants, et ainsi de suite. Ça va aller de mal en pis. D'ici une année ou deux, ça va aller plus mal. Actuellement, les États-Unis impriment des billets de banque. Ça aura un effet majeur, catastrophique. Après cela, regardez ce qui va se produire. Ça va frapper fort. Je l'ai mentionné dernièrement. Vous savez, les démons connaissent des choses que nous ne savons pas. Ce sont des esprits pervertis dans leur compréhension et dans leur interprétation des choses. Mais ils connaissent certaines choses. Ce sont des esprits brillants. il influence certaines personnes et certains groupes qui parlent de la prophétie. Et plusieurs personnes actuellement parlent du fait que quelque chose de gros va se produire, quelque chose d'important va se produire en 2012. Est-ce que ce sera la fin du monde? Non. Certains disent peut-être ça, mais ce n'est pas exact. Ce ne sera même pas le début de la tribulation. Est-ce que ce sera l'ère du Verseau avec la paix répandue sur la terre? Non, absolument pas. Il y aura beaucoup de choses, par exemple, qui vont se passer, des choses terribles. Au cours des prochains mois, surveillez les événements mondiaux. Il me semble que 2011 est un prélude à 2012, à quelque chose d'intense qui va se passer, de grands bouleversements. Le Moyen-Orient est en ébullition actuellement. Il nous faut réaliser que ce qui se passe actuellement, c'est le prélude de ce qui nous attend en 2012. La prochaine année est seulement à 11 mois de maintenant. Marchez avec Dieu, soyez prêts, aimez ses lois. Ne vous laissez pas être offensés par quoi que ce soit et ne vous détournez pas du Dieu vivant. J'ai regardé l'émission 60 minutes l'autre jour. L'une des principales analystes qui parle régulièrement sur cette station a parlé de la situation en décrivant les choses comme étant un jour de jugement qui nous atteint maintenant. Meredith Whitney, cette spécialiste, a décrit comment nos États et nos municipalités s'en vont directement à la banqueroute. Alors, ça commence à frapper. Beaucoup de gens perdent leur emploi maintenant et ça va augmenter. Beaucoup d'autres vont perdre leur emploi d'ici à 15 ou 20 mois ou 24 mois. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des soulèvements, il y aura des émeutes pour les emplois, pour avoir de la nourriture. L'inflation commence à réapparaître. Le prix des aliments augmente de façon majeure. Il y a beaucoup d'articles publiés là-dessus. Alors, ces événements-là vont changer notre vie. C'est vraiment le cas. Votre vie ne continuera pas comme une ligne droite sans problème. Vous allez voir des changements majeurs. Notez bien ce que je vous dis. En février 2013, dans 2 ans d'ici, ce sera vraiment différent de ce que nous avons maintenant en février 2011. Et nous approchons du temps de la fin de cette société et de la grande détresse. Quatrièmement, il y a un chaos absolu qui se développe maintenant dans tout le Moyen-Orient. La Tunisie a déjà renversé son président et a un nouveau gouvernement. Et vous avez vu les soulèvements en Égypte. L'Égypte est la nation arabe la plus importante en nombre, avec 83 millions de citoyens. La situation est explosive là-bas. Les jeunes gens sont dans les rues. Ça a commencé par eux et ça a été suivi ensuite par les femmes, les jeunes et des gens plus âgés. Pourquoi ces jeunes gens se sont-ils soulevés? Parce qu'ils n'avaient pas d'emploi. Leur situation était devenue intenable. Et ils sont sortis dans la rue pour protester, pour avoir des changements. Quand vous avez faim, les gens agissent. Les gens vont devenir affamés et vont passer à l'action. Soyons reconnaissants de ce que nous avons et de ce que nous pouvons faire. Le Yémen aussi est en difficulté. Le Maroc également. La Jordanie également. J'ai vu à la télévision hier soir que le roi a déjà remplacé le premier ministre, mais les jeunes fâchés veulent même s'en prendre un peu au roi, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Le Liban est également en difficulté, et d'autres nations à travers le Moyen-Orient. Vous regardez sur une carte géographique, l'Égypte est un très vaste pays en termes de territoire. Et en dessous, vous avez un tout petit pays, Israël, seul. Mon épouse a regardé tout ça un peu plus longtemps que moi. Je suis allé me coucher avant elle et elle m'a expliqué ça après. Elle disait, on voyait toutes les nations arabes autour avec le petit Israël. En Égypte, les frères musulmans commencent à reprendre du terrain. Ces gens-là sont très engagés. Ils veulent détruire Israël. Ça fait partie de leur but déclaré, tuer les Juifs et détruire la nation d'Israël. Et c'est ce qu'ils vont faire si jamais ils deviennent en charge de l'Égypte. Il pourra peut-être y avoir un gouvernement de transition. Je ne veux pas dire que les frères musulmans seront en charge demain, mais veillez, surveillez les événements. C'est ce que le Christ nous a dit à plusieurs reprises. Surveillez les événements, mon Dieu. C'est enthousiasmant de le faire. Et vous, jeunes gens, il vous faut réaliser que la fin approche. Pas avec le hasard, non, non. Exactement comme l'Église de Dieu l'a annoncé depuis des années. Billy Graham n'enseigne pas ça, Oral Roberts n'enseigne pas ça. Ceux qui se prétendent connaissant de la prophétie dans un paquet de groupes ne le connaissent pas. Aucun ne comprenne la prophétie. Ils parlent du temps de la fin, bien sûr. Ils parlent des Arabes, bien sûr, je le sais, mais ils ne savent pas comment ça va affecter Israël, l'État d'Israël, ni les autres pays israélites. Ils ne comprennent pas comment ça va affecter les descendants des nations d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la clé pour comprendre la prophétie. Ils ne comprennent pas l'identité des nations israélites modernes. Nous avons expliqué la chose à la télévision, à la radio et dans notre littérature depuis longtemps. Nous avons cette clé, Dieu nous l'a donnée et nous le comprenons. Les nations vont se tourner contre Israël et contre l'Amérique. On entend et on voit régulièrement des pancartes où les gens disent « mort à Israël, mort à l'Amérique, mort à l'Angleterre ». Ils nous haïssent de plus en plus. Les choses ne vont pas s'améliorer, elles vont devenir pires. Et tout ça se passe à la grandeur du Moyen-Orient. Israël est de plus en plus entouré, encerclé par ces nations musulmanes qui haïssent les Juifs. Alors, il nous faut comprendre les dangers qui s'en viennent pour nos frères juifs. Et s'ils ne se repentent pas, on espère que les Juifs vont se repentir, mais il y a très peu de chances, comme c'est le cas pour les Américains aussi. Certains peuvent se poser certaines questions. Certains vont dire, M. Obama, le président des États-Unis, et Mme Clinton disent qu'ils vont régler les problèmes. Est-ce qu'ils vont régler les problèmes du monde? Non, ils ne vont pas régler les problèmes du monde. Absolument pas. Ça fait 30 ans qu'ils disent qu'ils vont régler les problèmes du monde, les chefs de nos pays, et les problèmes ne se règlent pas. Allez à Psaume chapitre 33, s'il vous plaît. Psaume chapitre 33. Vous allez voir ce que Dieu dit concernant la situation mondiale actuelle. Psaume chapitre 33, et nous allons lire à partir du verset 10. Donc, psaume 33, verset 10. L'Éternel dit, l'Éternel renverse les desseins des nations. Il y aura beaucoup de réunions, mais ça va donner quel résultat? Rien. Dieu renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel, eux, subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. On doit être reconnaissant que Dieu soit en charge, mais il nous faut comprendre vraiment que les Nations unies même n'ont rien amélioré dans la situation. Ils ont établi leur charte en 1948, la charte des Nations unies. M. Herbert Armstrong, à ce moment-là, était présent en personne parce qu'il avait sa carte de membre de la presse à ce moment-là. Et qu'est-ce qui s'est produit depuis? Est-ce que le monde est devenu meilleur à cause des Nations unies? Absolument pas. C'est le contraire et ça ne s'améliorera pas. Ils ne régleront pas les problèmes du monde. Dieu renverse le dessein des nations, il anéantit les projets des peuples. Alors, qu'est-ce qui va arriver aux Juifs et aux autres nations d'Israël? Allez maintenant à Psaume chapitre 83, s'il vous plaît. Psaume chapitre 83, verset 2. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des desseins pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Voyez-vous? Ils veulent exterminer Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi, les tentes d'Édom et les Ismaélites. Qui est Édom? C'est Ésaü. C'est un des descendants d'Abraham, bien sûr, et les Amalécites. Et Dieu déclare dans sa Bible qu'il a une guerre à jamais avec Amalek. Et les Ismaélites, tous ces gens-là vont s'unir, ces gens des pays arabes aujourd'hui. Moab. Moab et Ammon sont les gens de la Jordanie moderne. Dr. Hay, M. Armstrong nous a expliqué ces choses-là. Ce sont les gens de la Jordanie. Gebal Ammon, Amman, c'est la capitale de la Jordanie. Alors, ce sont les descendants de ces gens. Et Amalek. Dans Genèse, on le verra tantôt, Amalek fait partie de ces peuples et un des peuples les plus vicieux, les plus méchants, les plus cruels, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie, qui est la Syrie? Nous avons écrit plusieurs articles là-dessus. Les Assyriens modernes sont les Allemands. Je suis partiellement Allemand. Je suis un peu Écossais, Irlandais, Gallois aussi, bien sûr, mais je suis partiellement Allemand. Nous ne condamnons pas l'Allemagne, mais nous montrons que Dieu va utiliser l'Allemagne, ses grands guerriers. Churchill disait que les Allemands sont soit à vos pieds ou vous ont à la gorge, un ou l'autre. Ils sont écrasés dans l'histoire et ils sont revenus à la charge par la suite. C'est eux qui ont commencé la Première Guerre mondiale, ce sont eux qui ont commencé la Deuxième Guerre mondiale et ce sont eux qui vont encore diriger la puissance de la bête pour initier la Troisième Guerre mondiale. Alors, verset 9, la Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Bien sûr, c'est Moab et Ammon. Alors, il y aura des choses terribles qui vont se passer. Verset 14, « Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent. » Verset 18, « Qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours. » Ces gens de la Syrie et ces gens de la Jordanie, les Amalécites modernes, ce sont les Palestiniens modernes. Plusieurs indications nous montrent que ce sont les descendants des Amalécites. Les Palestiniens sont des combattants acharnés qui veulent tuer, qui veulent tuer. Qu'ils soient honteux, qu'ils périssent. Pourquoi? Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. YHWH, celui qui a la vie en lui-même, que tu es le Très-Haut sur toute la terre. Il faudra que les êtres humains soient ébranlés jusqu'au plus profond d'eux-mêmes pour réaliser que Dieu est Dieu. Et après, ils seront disposés à entendre. Ces choses-là vont se passer. Et vous allez voir ces nations arabes, musulmanes se réunir. Ils vont former une confédération bientôt. Et ils vont combattre Israël. Plus tard, ils vont combattre nos nations aussi. Par après, ils vont combattre le Christ lui-même à sa deuxième venue. Avec la puissance de la bête. Mais ces gens-là vont apprendre des leçons terribles. Allons maintenant à Genèse, chapitre 16, s'il vous plaît. Genèse, chapitre 16. Je vais commencer à lire au verset 9. Ici, il parle de Agar, la servante d'Abraham avec laquelle il a eu son premier fils. Allons au verset 9. L'ange de l'Éternel lui dit, à Agar, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. » Il y a beaucoup de gens arabes dans le monde. Verset 11, l'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom d'Ishmaël, qui veut dire « Dieu entend, car l'Éternel a entendu ton affliction. » Et Dieu lui a donné à ce moment-là ce qu'elle avait besoin. Il sera, verset 12, remarquez bien, il sera un homme gentil, un homme aimable, affable. Non, il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Ces Arabes, traditionnellement, ont toujours été des combattants, soit qu'ils nous ont combattus ou soit qu'ils se sont combattus entre eux. C'est dans leur nature. L'autre jour, il y avait un article dans le journal local ici. Et on essayait de prétendre que toutes les races sont pareilles. C'est une idée moderne, mais qui est fausse. Nous ne sommes pas tous pareils. C'est insensé de prétendre qu'on est tous pareils. Certains disent, ah, c'est d'avoir un préjugé que de penser ou de dire qu'on n'est pas pareil. Écoutez, avec l'Esprit de Dieu, on n'en veut pas à personne d'être différent, mais il nous faut comprendre la réalité, c'est la réalité des choses. Même dans les journaux, de plus en plus, on voit que les gens prétendent qu'il n'y a pas de différence entre un homme et une femme, et c'est pour ça qu'on peut, selon eux, se marier entre hommes et entre femmes, et ainsi de suite, et faire n'importe quelle chose. Non, c'est de la foutaise. Dieu haït ces choses-là. Il appelle ça de l'abomination. Dieu a fait l'homme et la femme différents pour un but précis. Il a fait les groupes ethniques différents. Et les hommes essaient d'effacer ces différences-là en prétendant que ce n'est pas le cas. C'est ridicule. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Pour simplifier les choses, on peut dire, on peut simplement considérer les Juifs, par exemple. Pourquoi les Juifs sont en tête presque dans tous les domaines de l'activité humaine? Parce qu'ils ont des caractéristiques différentes. Il y a plusieurs années, on a parlé de ça avec Mme Lucie Martin. Les 5 violonistes les plus réputés à l'époque étaient tous des Juifs. Je ne me rappelle pas les noms de chacun, mais à une époque, les meilleurs violonistes sur la Terre étaient des Juifs. Et aussi, les 5 pianistes les meilleurs sur la Terre étaient des Juifs. Rubinstein, Horowitz et d'autres dont les noms m'échappent. Je ne peux pas me rappeler tous ces noms. Ça fait longtemps. J'avais une liste que j'ai tirée du Wall Street Journal où on indiquait que les plus grands scientifiques dans le domaine atomique, dans le domaine nucléaire, dans le domaine de la santé, c'était des hommes avec des noms juifs. Ou même s'ils n'avaient pas des noms juifs, parfois on peut voir dans leur histoire que ce sont des descendants de juifs. Certains ont changé leur nom. Certains juifs dans l'histoire, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, ont changé de nom, sont entrés, pour ainsi dire, dans la clandestinité, ont changé leur identité. Des millions de Juifs ont suivi ce chemin-là de la clandestinité. Ils ont changé leur nom pour ne pas être persécutés. Ces gens-là ont des capacités extraordinaires. On les retrouve en tête de plusieurs domaines en termes de performance. Je ne suis pas un Juif, mais je reconnais leur talent. Je pense que je n'ai pas une goutte de sang juif dans mon sang. J'ai peut-être un peu de sang de Lévite. Les Lévites n'étaient pas aussi brillants que les Juifs. Les Lévites étaient les musiciens. Ma sœur ici enseignait la musique. Et les gens du côté de ma mère étaient des enseignants. Ça prouve rien, malgré que le nom de ma mère était Cohen. Un nom lévitique, c'est un nom de Lévite. Mon ami Mordecai Joseph m'avait dit, bon, c'est un nom lévite. Alors, je peux être partiellement lévite. Et Dieu utilise les caractéristiques de chaque nation pour faire ce qu'il veut faire. Ça ne nous rend pas meilleurs ou pires que d'autres, mais Dieu a donné des forces à certains et d'autres forces à d'autres. D'autres ont plus d'intelligence, d'autres talents. Les choses sont comme ça. C'est Dieu qui est en charge. Et Dieu dit que Ishmaël serait un âne sauvage. Le président Obama appelle l'islam une religion de paix, mais c'est ridicule de dire ça parce que ce n'est pas le cas. Toute l'histoire montre le contraire. C'est une religion de guerre, des guerres qui se sont multipliées au Moyen-Orient. La tendance et l'approche de leur part, c'est de dire, vous allez devenir musulmans, vous allez prendre notre religion ou on va vous tuer. Et vous savez, c'est facile de faire des conversions dans ce temps-là parce que les gens veulent vivre. Alors, ils l'ont fait ça au cours de l'histoire. Ce n'est pas une religion de paix, absolument pas. Allons maintenant à Genèse chapitre 19. Et voyons un peu l'historique de ce que je vous explique. Verset 36, Genèse 19, verset 36. Je vais trouver ma place là. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Vous savez un peu l'histoire. Lot a fui Sodome. Son épouse a été tournée en statue de sel en cours de route et Lot est resté seul avec ses deux filles. Et les deux filles voulaient continuer la famille, avaient peur de ne pas avoir d'enfants. Ils ont donné la boisson à leur père, l'ont enivré et ont eu des enfants de lui. L'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ammi. Et c'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Ce sont les enfants de Lot. Et Lot était parent d'Abraham. Alors, ça montre qui ils sont au Moyen-Orient. Maintenant, allons au chapitre 27, s'il vous plaît. Genèse 27. Et nous allons lire à partir du verset 38, où il est question d'Ésaü. Rappelez-vous, il a perdu son droit d'aînesse. Il a vendu pour un bol de soupe, dans le fond. Jacob a menti pour avoir les bénédictions en plus, bien sûr. Il était rusé et déshonnête au début, Jacob. Verset 38. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Le frère aîné de Jacob était Ésaü. Il a perdu son droit d'aînesse. Et son père lui a dit, Isaac, son père, répondit, il lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Est-ce que ça s'est produit? Oui, malheureusement, au Moyen-Orient, pendant plusieurs années, les Israélites, les Anglais, les Français et d'autres ont dirigé ces nations pendant de longues périodes de temps. Ça s'est accompli. Mais en errant librement çà et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, le jour de deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Alors, on voit l'inimitié qui continue jusqu'à aujourd'hui. Allez au chapitre 28 maintenant de Genèse et le verset 9. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël et prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalath, d'Ismaël. Alors, Dieu avait dit qu'il aurait une nature très sauvage, très violente. Alors, cette même attitude a continué de génération en génération. Allez maintenant au chapitre 36 de Genèse, chapitre 36, verset 1. Voici la postérité d'Ésaü, qui est Édom. Quand on voit le nom Édom dans la Bible, nous savons que ce sont les descendants d'Ésaü au Moyen-Orient. Et c'est entremêlé avec les Ishmaélites à cause des différentes épouses qu'il a eues. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan. Ada, fille d'Élon. Allons au verset 8. Ésaü s'établit dans la montagne de Séir. Ésaü, c'est Édom. Ésaü, c'est Édom. Verset 9. Voici la postérité d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Séir. Voici les noms des fils d'Ésaü. Éliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü, et ainsi de suite. Verset 11. Le fils d'Éliphaz furent Téman, Omar, Tsepho, Gaétam et Kenaz, et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü, et l'enfanta Éliphaz, Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Alors voyez-vous, on voit ici la postérité. Je n'ai pas le temps de parler beaucoup d'Amalek ici, on pourrait donner un sermon entier là-dessus. Mais étudiez-le, voyez-le dans votre Bible. Dieu a une guerre avec Amalek continuellement, parce qu'ils ont été un peuple rempli de haine, d'une haine incomparable. Et Dieu va les détruire pour qu'ils aient leur chance plus tard. Ils vont revenir dans la période du jugement du grand trône blanc. Et là, Satan ne sera pas là pour les pousser et les inspirer. Dieu a permis ces choses-là, vous savez. Pourquoi? Pour enseigner des leçons aux êtres humains. Dieu nous enseigne des leçons qui vont durer éternellement. Alors, ces gens-là vont se confédérer avec l'Assyrie. Ils vont former une confédération pour détruire les Juifs et pour détruire les descendants de ceux qui ont le droit d'aînesse, les Anglais, l'Angleterre, l'Amérique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et ainsi de suite. Allons à Apocalypse, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 17. Apocalypse, chapitre 17. Ça parle de la grande prostituée ici, qui règne sur les grandes eaux, sur les nations. Et il dit au verset 3, « Et je vis la femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. » Nous savons ce que ça veut dire. Ce sera la bête qui s'en vient. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Le pourpre symbolise la royauté et la couleur écarlate symbolise la prostitution. Alors, c'est une prostituée royale, pour ainsi dire, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle est très riche. Et le terme « femme » est utilisé dans la Bible pour décrire une église. Alors, il s'agit ici d'une fausse église, mais d'une très grande église, très riche, d'une prostituée. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie des abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone, la Grande. Vous pourrez lire le livre « Les deux Babylones » écrit par Alexandre Hislop, qui explique comment les anciennes religions babyloniennes ont été répétées et gardées au cours de l'histoire par l'Église catholique et les Églises protestantes. Et comment les fêtes païennes des Pâques et de Noël ont été maintenues à travers les siècles par cette grande prostituée et par ses filles. Dieu a permis ces choses-là. Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Frères et sœurs, sachez ceci, et vous aussi, jeunes gens, plusieurs d'entre vous, vous avez eu des amis qui font partie de cette église, et ce sont des gens aimables. La première personne qui m'a mis KO, pour ainsi dire, à la boxe. C'était une jeune voisine qui avait 4-5 ans de plus vieille que moi. Mon père m'avait donné des gants de boxe et je suis allé devant elle. Elle était plus grande que moi. Elle avait 4-5 ans de plus vieille que moi. Elle m'a frappé au visage et j'ai vu des étoiles. C'était des gens aimables, des bons voisins. Il y avait une fillette qui était de mon âge, mais elle, Nancy, avait 4-5 ans de plus vieille que moi. Alors, les catholiques sont des gens qui peuvent être très aimables aussi. Je vis cette femme ivre du sang des saints et des témoins de Jésus. Et quand vous lisez l'histoire des persécutions au Moyen Âge, vous voyez l'Inquisition catholique, ça a été terrible. Et vous, jeunes gens, étudiez ces choses-là. Allez sur Internet s'il le faut. Tapez le mot « Inquisition ». Voyez ce qui s'est passé dans l'histoire pendant des dizaines et des dizaines d'années. Comment les gens qui n'étaient pas d'accord avec ce système-là ont été torturés, ont été brûlés sur des bûchers, ont vécu des choses horribles à cause de la religion. Les bourreaux ont fait ça au nom de la Vierge Marie et supposément au nom du Christ. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. » Il parle ici de ce système, Rome, qui est tombé en 476 et qui a été ravivé en 554 par Justinien. Et il y a eu d'autres résurrections de cet empire romain par la suite. Nous allons assister bientôt à la dernière résurrection de l'empire romain. Ça vient très bientôt. Certaines personnes qui parlent de la prophétie à tort et à travers, des prédicateurs qui ne connaissent pas vraiment et qui ne comprennent pas vraiment la prophétie, disent que cette bête, ce sera les Chinois ou ce sera les Arabes. Non, absolument pas. Ça sera en Europe. La bête sera en Europe. Beaucoup de gens parlent de la prophétie sans vraiment la comprendre et se trompent là-dessus. Je ne m'appelle pas tous les noms de ces gens-là, mais ils ne comprennent pas. Ce sera le même système au même endroit par les mêmes gens. Et ça va réapparaître en Europe. Verset 10, « Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés. » Au moment où ça a été amené à l'attention de M. Armstrong, on a compris un élément important ici. Dieu a donné à M. Armstrong de comprendre ça. Et à ce moment-là, 5 étaient tombés, 5 résurrections de l'Empire romain étaient déjà arrivées. Un existait, un existe, et l'autre n'est pas encore venu. Alors, M. Armstrong est arrivé, donc, et Dieu lui a donné de comprendre qu'au moment où M. Armstrong était vivant, un existait, et c'était l'axe Hitler-Mussolini. C'était la 6e résurrection de l'Empire romain. Et d'ailleurs, si vous voyez la littérature, Mussolini a déclaré qu'il était représentant de l'Empire romain. C'était une résurrection de l'Empire romain. Dans le passé, certaines résurrections précédentes de l'Empire romain ont duré longtemps, mais dans le cas de l'axe Hitler-Mussolini, ça a duré moins de 6 ans. Ça a commencé le 1er septembre 1939 avec l'attaque sur la Pologne et ça s'est terminé en mai 1945. Ça a été moins long cette fois-là. L'autre n'est pas encore venu et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus, elle est elle-même un 8e roi. Alors, Rome est le 8e système, pour ainsi dire. Il y a eu Rome, original, puis chacune des résurrections. Mais Rome est en même temps le 8e système, si vous voulez. Alors, ça va se produire, la résurrection dernière de cet empire romain. Allez voir à Apocalypse 19, verset 20. « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. » Écoutez, Entendez bien ce que je vous dis ici. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues auparavant. Ne croyez pas tous les signes. Nous-mêmes, nous avons besoin de certains signes. Nous demandons humblement à Dieu de nous donner son esprit pour être capable d'utiliser bien le pouvoir de Dieu. Mais il va y avoir des faux prodiges et des prodiges extraordinaires, des crucifix qui vont briller dans le noir, des statues de la Vierge Marie qui vont verser des larmes ou du sang. Il y aura des miracles réels qui ne peuvent pas s'expliquer scientifiquement. Et Dieu dit dans Apocalypse 13, verset 13, vérifiez cette chose-là, Apocalypse 13, verset 13, Dieu dit que ce grand faux prophète à la tête de cette fausse église va littéralement faire descendre du feu du ciel. Ce sera réel. Ce sera un feu réel. Ça va être une réalité. Le feu fait partie de l'atmosphère de cette terre et Satan est le prince de la puissance de l'air, de l'atmosphère qui entoure cette terre. Et Dieu va permettre à Satan et à ses ministres de faire des choses comme celle-là. Et ça va se produire au cours de la vie de la plupart d'entre vous. Certains ne seront peut-être pas là pour le vivre. Mais écoutez, si vous êtes encore là, continuez. Ne quittez pas, n'abandonnez pas. Ne vous détournez pas de Dieu. Ces choses-là vont se produire comme nous l'avons annoncé depuis des dizaines d'années. Et personnellement, moi, j'ai entendu M. Armstrong annoncer ces choses-là graduellement. La vraie Église de Dieu a été inspirée par Dieu. M. Armstrong l'a expliqué. Aucune autre Église a été en mesure d'expliquer ces choses-là. Nous avons une brochure superbe qui s'intitule « La bête de l'Apocalypse » et M. John Ogwin parle dans cette brochure de ce journaliste de la ville de Hendersonville au Tennessee qui a écrit un article suite à la chute du mur de Berlin que lui n'était pas surpris de cet événement-là. Pourquoi ce journaliste-là n'était pas surpris de cet événement-là qui s'est produit en 1989-1990, alors que les nations qui étaient sous la botte soviétique se sont libérées, les Polonais, les Tchécoslovaques, les Hongrois, les Roumains, les Estoniens, les Latviens, les Lituaniens. Et c'était étonnant pour la plupart des gens dans le monde, parce que personne n'avait prédit ça, aucun analyste n'avait prédit ça, aucun prédicateur n'avait prédit ça non plus, ni Oral Roberts, ni d'autres, ni les prêcheurs protestants. Aucun n'avait compris. Mais ce journaliste-là a dit, ça a été étonnant pour beaucoup de gens, pour la plupart des gens, mais ce n'a pas été un étonnement pour moi, parce que j'avais lu ce que M. Armstrong avait écrit, que cette chose-là allait arriver, que le mur de Berlin allait tomber. M. Armstrong l'avait annoncé. Et plusieurs s'en rappellent. Mme Appartient s'en rappelle. Elle a entendu ces choses-là. Moi aussi, et d'autres qui sont ici, qui étaient présents à l'époque. M. Armstrong a annoncé ça longtemps avant que ça se produise. Nous sommes les seuls qui comprenons ça. Alors, Dieu va prendre le faux prophète et la bête et il va les jeter dans l'étang de feu. C'est ce qui va se passer. Ils seront jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ce sera tentant de suivre le faux prophète et le chef militaire puissant. Ce sera invitant de le faire et les gens vont être tentés de le faire. Tous les êtres humains vont suivre cette direction-là. Ne faites pas ça. Obéissez aux directives de Dieu. Ces deux êtres-là vont sembler tellement importants, mais peu de temps après, ils seront disparus. Je me rappelle qu'après la mort de M. Armstrong, il y avait des gens qui paraissaient très importants dans l'Église. Et des gens venaient me dire, « Regardez, M. Untel et M. Untel, comment ils font bien. » Moi, j'étais sur la réserve parce que je savais qu'ils ne comprenaient pas les choses. Je savais leurs hérésies, leur approche hérétique. Et ces deux-là qui étaient là à la fin ne sont plus là. Un n'a plus rien et l'autre a un tout petit groupe maintenant. Dieu les a rejetés et ils ont chuté. Dieu amène à rien le plan des nations. Il nous faut comprendre ces choses-là. C'est Dieu qui est en charge. Il dit ici, Apocalypse 17 et le verset 12, Apocalypse 17, verset 12, « Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. » Il ne dit pas 10 nations ici. C'est 10 rois. Ça peut être 10 leaders majeurs qui peuvent peut-être être chacun au-dessus d'une ou deux ou trois nations. Ça, on verra, ça peut être des groupes de nations, mais il y aura 10 leaders majeurs qui vont être conquis par le charisme de la bête et du faux prophète. Ce sera différent de ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale, alors que les armées d'Hitler ont fait le tour de la ligne Maginot et ont conquis et détruit par les armes la France, la Suède, le Danemark, la Belgique, la Hollande. Ils ont été écrasés. Ils ne se sont pas joints volontairement à Hitler. Ils ont été écrasés. Est-ce que la bête, la dernière fois, va faire ça? Non. Ce sont les rois de ces nations qui vont donner leur puissance. Ce sont les rois des nations qui vont donner leur puissance à la bête. Il sera charismatique. Il va se présenter d'abord comme un grand leader qui veut amener la paix, qui veut amener la prospérité, qui va dire maintenant, nous allons avoir une unité parce que nous allons avoir une seule religion. Il n'y aura plus de guerre religieuse et nous allons pouvoir adorer ensemble. Ça va être formidable comme présentation. Ça va sembler bon, sauf que Dieu a dit d'avance exactement le résultat de ce faux système. Et regardez le verset 12 ici. Ils n'ont pas reçu de royaume encore, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Une très courte période. Ils ont un même dessein. Verset 13. Et ils donnent leur puissance. Voyez-vous, volontairement, ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils sont séduits. Ils sont séduits pour donner leur pouvoir à la bête, pour participer volontairement. Et il y aura des millions de gens impliqués dans ça, des Français, des Italiens, des Portugais et plusieurs autres nations en Europe et en Europe de l'Est. Et ils vont former une immense armée, des nations catholiques surtout. Est-ce qu'ils vont aimer le Christ? Est-ce qu'ils vont adorer le vrai Dieu? Non! Ils vont faire la guerre à l'agneau, verset 14. Ils combattront contre l'agneau, contre le Christ lui-même, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Peut-être qu'à ce moment-là, nous aurons participé à la belle cérémonie des noces de l'agneau et nous allons descendre avec le Christ pour combattre ces nations-là. Nous allons avoir cet honneur en tant que les saints de Dieu, comme on voit au psaume 149. Pensez au verset 14. Imaginez-vous la vaste majorité de l'Occident seront séduits, tellement séduits qu'ils vont littéralement combattre le Christ lorsqu'il reviendra. J'ai un CD que j'aime beaucoup qui est enregistré par M. Roger Bryan qui enseignait la musique au collège à Big Sandy. Il y a une belle voix de ténor. Et je me rappelle un de ses chants qui décrit le retour de Christ et dans lequel il dit, les mots m'échappent, là, mais il dit... Nous allons être débordants de joie, d'un enthousiasme indescriptible lorsque le Christ va descendre sur la terre. Ce sera le cas pour les serviteurs de Dieu, mais pas pour l'ensemble de l'humanité. L'ensemble de l'humanité vont vouloir détruire le Christ, vont tourner leurs armes les plus puissantes vers lui pour le détruire. Ils seront séduits. Des millions de personnes... Les Arabes n'aimeront pas ça, les musulmans non plus, les Chinois communistes n'aimeront pas ça, et les faux chrétiens en Europe n'aimeront pas le retour de Christ. J'espère que nous allons l'aimer, le retour de Christ. Il faut y tenir. Écoutez, les larmes vont couler de nos yeux, des larmes de joie. Finalement, le Christ viendra, et ce sera fantastique de vivre ces choses-là. Il nous faut comprendre à quel point ces gens-là sont séduits. Le temps passe et il faut comprendre ces choses-là. Allons maintenant à Matthieu, chapitre 24, s'il vous plaît, un chapitre capital en ce qui concerne les événements du temps de la fin. Matthieu chapitre 24. C'est une description les plus complètes des événements du temps de la fin. Matthieu chapitre 24 décrit ce que Marc 13 et Luc 21 décrit également, mais c'est plus complet ici. Matthieu 24 et le verset 3, le Christ s'assit sur la montagne des Oliviers et ses disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde, non pas de la fin de la planète ou de l'existence de la planète, mais de la fin de cette société-là. » Verset 4, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. » Ils ne viennent pas au nom de Satan. Non, ils disent, « Je suis un ministre de Dieu, j'enseigne la Bible. » Ils viennent en prétendant représenter le Christ. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là? Ils parlent du Christ. Ils parlent du Christ dans une mangeoire, dans la crèche. Et ils parlent du Christ dans la fête de Noël, et ainsi de suite. Ils parlent de la mère et de l'enfant. Et ils continuent à chanter « Sainte nuit, les anges dans nos campagnes », et ainsi de suite. Et on associe à ça des chansons comme celle de Bing Crosby qui dit « Je rêve d'un Noël blanc ». Et ce sont des choses émouvantes. Et on associe à ça des réunions de famille qui sont gentilles en soi, mais ça présente quand même un faux Dieu, un faux Jésus et un faux but de l'existence humaine. Pensez-y un peu. Dans le monde à venir, je suis convaincu que nous aurons de merveilleuses fêtes, de merveilleuses réunions de famille, de grandes célébrations, comme à la fête des tabernacles, par exemple, et à d'autres moments donnés aussi, mais ça sera fait de bonne façon, à l'intérieur du vrai but de la vie, et nous aurons de la belle musique, avec des choses 10 fois plus belles que ce que l'on voit dans les fêtes païennes aujourd'hui, que Noël, les Pâques, et ainsi de suite. Alors, donc, les faux prophètes, les faux enseignants vont séduire plusieurs gens et séduiront beaucoup de gens. Quel est le premier sceau qui sera ouvert dans Apocalypse? Les fausses religions, et ça commence maintenant plus que jamais, alors que des milliers d'Anglais anglicans retournent à Rome maintenant, alors que l'écuménisme fait son chemin. Nous n'assisterons pas à une diminution de la ferveur religieuse. Au contraire, nous allons assister de plus en plus à une augmentation intensifiée de la ferveur religieuse. Mais ils vont se tourner vers les faux prophètes, vers une fausse religion. Regardez bien ça se produire, ça va se produire sous vos yeux. Alors viennent les guerres et les bruits de guerre. Verset 7, une nation, et dans le grec c'est ethnos, c'est-à-dire des ethnies différentes vont s'entretuer. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. On a vu ça en Irlande. Et ça va se produire, ça va se multiplier, ça va se produire à plus grande échelle. Et puis après, ça dit, il y aura des famines. Les famines vont suivre. Vous savez, les grandes sécheresses qu'on a vues depuis 7 ans en Australie et aux États-Unis, et après ça, les inondations, c'est ce qu'on voit se produire dans nos pays. Les productions alimentaires vont diminuer. Ça va se produire au Canada aussi. Et il y aura un manque de nourriture et des famines. Et il y aura des épidémies. Tout ça va se produire. Et il y aura des tremblements de terre. Il y aura des tremblements de terre en différents lieux, mais des tremblements de terre massifs, comme on n'a jamais vu auparavant. Après, il y aura une persécution religieuse. Alors, on vous livrera aux tourments, les vrais serviteurs de Dieu, et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Cette œuvre sera connue plus qu'elle ne l'est maintenant. Ça nous rendra plus exposés. Je serai davantage en danger. Et il ne faudra pas quitter le navire, parce que ce ne sera pas facile, mais vous allez avoir la récompense éternelle si vous gardez votre foi et vos yeux en Dieu. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et il nous faut annoncer le royaume de Dieu qui s'en vient. dites à Dieu, « Père, que ton règne vienne, toi, le Tout-Puissant. » C'est ce qu'on doit demander à Dieu régulièrement. Avant de connaître le vrai Dieu, je disais ça dans mes prières, mais sans vraiment le comprendre. Ceux qui nous enseignaient dans l'église où j'allais ne comprenaient pas ça. Mais quand j'ai été appelé à l'église, il y a 61 ans, j'ai commencé à comprendre que le royaume de Dieu, c'était un vrai gouvernement qui allait venir, qui allait être établi sur la terre. Et c'est ce qu'on demande maintenant. Et il dit, cette bonne nouvelle, verset 14, du royaume sera prêchée dans le monde entier. C'est notre devoir, notre responsabilité pour servir de témoignage, pas pour convertir les gens à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et regardez verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Des fausses religions, des guerres ethniques, des famines, des inondations, des épidémies, des persécutions. On verra à un moment donné une idole être placée à Jérusalem. Bien sûr, les sacrifices vont reprendre à Jérusalem, mais quand cette statue-là, cette idole-là sera placée à Jérusalem, soit dans un temple ou soit sur un autel, c'est ce qu'on appelle l'abomination de la désolation. Lorsqu'on verra cela se produire, vous allez savoir que nous sommes tout proches de la tribulation. Ce sera peut-être une question de semaines, de mois ou de semaines ou de quelques jours. C'est quelque chose de majeur qui va se produire. Allons maintenant au livre de Daniel, s'il vous plaît. Daniel, le chapitre 11. Daniel a été inspiré par Dieu d'écrire ceci. Daniel 11 et le verset 31. J'aimerais lire tout le chapitre, mais je n'ai pas le temps. Ça décrit ici au verset 31 ce qui va se passer. Ça s'est déjà passé dans le temps d'Antioche Épiphane. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. C'est ce que Daniel mentionne. Ils vont faire cela et ils vont mettre un terme au sacrifice quotidien. Veillez sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Surveillez les nations arabes. Surveillez la bête, l'Europe unie, faire alliance pour que les sacrifices recommencent à Jérusalem. Parce que voyez-vous, ces sacrifices-là ne peuvent pas être arrêtés s'ils n'ont pas d'abord repris. Alors, ils vont reprendre. Lorsque les sacrifices seront arrêtés, une période de temps horrible va commencer. Verset 40 maintenant. « Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui et le roi du nord du septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. » Alors, ça décrit la machine militaire allemande. Durant la Deuxième Guerre mondiale, on appelait ça le Blitzkrieg ou la guerre éclair. L'Allemagne fondait littéralement, soudainement, sur ceux qui l'attaquaient. Alors, c'est ce qui va se passer au temps de la fin. Le roi du Nord, c'est l'Empire romain. Quand le roi du Midi ou le roi du Sud va provoquer le roi du Nord ou la bête, celle-ci va fondre sur le roi du Sud, sur les pays arabes, avec leur équipement des plus modernes. Et va les écraser. Il nous faut comprendre cela. Frères, surveillez les pays arabes, l'Égypte et les autres. Une certaine unité va se développer, va se bâtir entre eux. Ce sont eux qui vont former le roi du Sud. Il y a un faux prophète parmi ceux qui sont issus de l'Église universelle qui dit que l'Iran est le roi du Midi, absolument pas. Le roi du Midi va venir du sud de Jérusalem. C'est pour ça qu'on l'appelle le roi du sud. ce n'est pas le roi du nord-est. L'Iran est au nord-est de Jérusalem. On peut le voir par ces indications-là. Probablement que le roi du Midi ou le chef de cette confédération va venir de l'Égypte ou de l'Arabie saoudite. Le roi du Sud va attaquer ou provoquer l'Empire romain. Ce sera peut-être une attaque, mais ce sera peut-être une provocation aussi. Peut-être qu'ils peuvent couper l'approvisionnement en pétrole pour l'Europe, et l'Europe en ayant besoin absolument, l'Europe va descendre pour aller chercher le pétrole qu'ils en ont besoin. Écoutez, déjà, il y a des millions d'Arabes qui sont en Allemagne, en France et dans ces pays-là et qui essaient d'imposer leur religion. Et les Français commencent à mettre un terme à cela et les Allemands commencent à être réticents à cela aussi. Les musulmans occupent parfois les rues même, on l'a vu en Angleterre, pour le jour de la prière, se prosterner devant leur Dieu et bloquent la circulation. Ils veulent imposer leur religion. Ils pensent qu'ils peuvent imposer leur présence et leur religion. Alors écoutez, l'Europe va devenir réfractaire à ça et à un certain moment donné, les Européens vont se tourner contre une telle approche et vont réagir. Et si en plus ils se voient coupés de leur approvisionnement en pétrole, il va se passer des choses, ils vont réagir puissamment. Une fois provoqué, la bête, avec sa supériorité technologique, va fondre sur le roi du Midi comme une tempête. Verset 44. La bête entrera dans le plus beau des pays, la Palestine, et plusieurs succomberont. Mais Édom et Moab et les principaux enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Pourquoi? Comme on a vu dans Psaume 83, parce que ces nations-là auront déjà signé un traité avec la Syrie, avec l'Allemagne. Ils seront déjà en train de collaborer avec la bête, donc ils ne seront pas pris par la bête. Il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera pas. Pourquoi est-ce qu'il mentionne l'Égypte ici? Parce que l'Égypte sera probablement le roi du Midi. J'ai l'impression que ce sera soit l'Égypte ou soit l'Arabie saoudite. Un leader politique ou religieux ou les deux va émerger et va prendre charge. Il viendra peut-être de l'Égypte ou de l'Arabie saoudite, parce que c'est là, en Arabie saoudite, que Mahomet a commencé sa religion et qu'il est parti de la Mecque pour se rendre à Madina. Alors, ce sera, selon moi, un ou l'autre des pays qui va avoir le Mahdi, ce chef politico-militaire religieux en charge des nations arabes. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent de toutes les choses précieuses de l'Égypte, et ainsi de suite. Des nouvelles d'Orient viendront l'effrayer, viendront effrayer ce dernier Hitler. Les Hindous, les Chinois, les Russes vont probablement être ensemble et vont vouloir arrêter la puissance militaire et politique de l'Europe unie, pour établir un équilibre, si vous voulez. Il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin sans que personne ne lui vienne en aide. Nous avons lu ça dans Apocalypse 19 et le verset 20. Le Christ va jeter la bête et le faux prophète dans les temps de feu, et personne ne leur viendra en aide, parce que le Christ est le roi des rois. Il va conquérir et il va amener, comme c'est écrit, les plans des nations à rien. Et lorsqu'on va au chapitre 12, Daniel, chapitre 12 et le verset 1, en ce temps-là, au moment de ces grandes batailles, au moment où les nations arabes seront écrasées par la puissance de la bête et que la bête sera elle-même écrasée, en ce temps-là, durant cette période-là, se lèvera Michaël. Michaël veut dire prince de Dieu, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Dieu a des anges et des archanges, ici un chérubin, qui a un rôle à jouer spécial. Michaël a comme responsabilité de veiller sur Israël. Gabriel est un chef messager ou un messager en chef pour Dieu. Lucifer était un archange avec les deux premiers, mais maintenant il a changé complètement. En ce temps-là, ce sera le temps de la grande tribulation et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent. Vous pourrez voir ça dans Ézéchiel 5, verset 9, Matthieu 24, verset 21, Jérémie 30, verset 4 à 7. Ce sera un temps d'angoisse jamais vu dans l'histoire du monde. La grande détresse, la tribulation. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Si nos noms sont écrits dans le livre de vie, si nous marchons avec Dieu, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Le peuple de Dieu qui est décédé, j'aimerais ça être là à la dernière trompette pour... J'aimerais ça être là au temps de la fin, au moment de la résurrection, dans le cimetière de Mountain View, près de Pasadena, et de voir M. Armstrong sortir de la terre, Mme Armstrong aussi, et nos collègues de travail. Il y a un cimetière aussi à Gladewater, parce qu'il y avait beaucoup de membres de l'Église qui sont allés vivre leur dernier jour et mourir dans cette région-là. Alors, ils se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents, frères et sœurs, vous qui êtes ici, vous qui êtes un peu partout à travers le monde, en Europe, en Asie, en Afrique, dans les Antilles, en Amérique, un peu partout, comprenez bien ceci, soyez sages, comprenez ces choses-là, soyez enthousiasmés par rapport à ça. Nous sommes au temps de la fin. Nous entrons dans le dernier droit. Nous avons quelques années brèves pour faire ces choses-là. Nous avons seulement quelques années pour amasser des trésors dans le ciel, seulement quelques années pour être vraiment le peuple de Dieu, pour annoncer la merveilleuse nouvelle du monde à venir. Ceux qui auront été sages, qui auront enseigné la justice à la multitude, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Voilà notre but. Soyons sages, frères et sœurs. Nous avons un appel merveilleux. Nous entreprenons le dernier droit vers le but. Quand le dernier coup de pistolet retentit, bang, il nous faut avoir cette importante montée d'adrénaline et nous dire « Allons, allons, en avant, nous arrivons au bout, nous allons terminer la course, nous allons avertir le monde, les avertir avant qu'il ne soit trop tard. Nous allons répandre ce message dans le monde entier. Ayons cette poussée d'adrénaline spirituelle et achevons le travail de tout notre cœur. Nous serons récompensés et nous brillerons comme les étoiles à tout jamais dans le royaume de Dieu, dans la famille même de Dieu, en portant son nom pour toujours. Voilà ce qui nous attend. Tenons bon, en avant. »